l'intérieur de l'auberge de Schloss, tout avait été chamboulé. On ne reconnaissait pas le lieu. C'est comme s'il avait fait peau neuve. Nous entrâmes sur la pointe des pieds, presque sans trop oser. Même ceux qui d'ordinaire ont une grande gueule la tenaient bien coite. Beaucoup se tournaient vers Orschwihr, croyant sans doute que le maire était différent d'eux et qu'il leur montrerait ce qu'il faut faire, comment se comporter, quoi dire ou ne pas dire. Mais Orschwihr était comme tout le monde, pas plus malin et pas plus savant. Les tables avaient été poussées contre un mur et recouvertes de nappes propres, sur lesquelles des dizaines de verres et de bouteilles étaient alignés comme des soldats avant la bataille. Il y avait aussi de grandes assiettes remplies de saucisses tranchées, de morceaux de fromage, de jambon, de lard maigre, de pain et de brioche, de quoi nourrir un régiment. Tous les yeux avaient été d'emblée attirés par cette disposition de nourriture et de boissons, qu'on ne rencontre guère chez nous que dans certains mariages, quand des paysans fortunés unissent leurs enfants et veulent un peu épater la galerie. Aussi n'est-ce qu'ensuite qu'on remarqua sur les murs une vingtaine de torchons posés sur ce qui devait être des cadres. Les uns et les autres se les montrèrent d'un geste du menton. Mais on n'eut pas le temps d'en faire, ni d'en dire plus, car les marches de l'escalier se mirent à craquer. Et Landerer apparut. Il n'était pas dans ses vêtements farfelus auxquels on avait fini tout de même par s'habituer, chemise à jabot, redingote, pantalon en tuyau. Il portait simplement une sorte de grande robe ample, blanche, qui lui enveloppait tout le corps et tombait bas, en lui dégageant, à ras, son gros cou comme si un bourreau avait déjà au ciseau coupé tout le col. Landerer descendit quelques marches, et cela fit une drôle d'impression car la robe était tellement longue qu'on ne voyait même pas ses pieds. Il semblait glisser à quelques pouces du sol, comme l'aurait fait un fantôme. Personne ne dit mot en le voyant, et il précéda toute réaction en prenant la parole, de sa voix discrète, un peu flûtée. « J'ai cherché longtemps comment vous remercier de votre accueil et de votre hospitalité. J'en ai conclu que je devais faire ce que je sais faire. Regarder, écouter, saisir l'âme des choses et celle des êtres. J'ai beaucoup voyagé de par le monde. Peut-être est-ce pour cela que mon œil voit davantage et que mon oreille entend mieux. Je crois sans présomption avoir compris une grande part de vous-même et de ces paysages dans lesquels vous habitez. Prenez mes petits travaux comme des hommages. N'y voyez pas autre chose. Monsieur Schloss, je vous prie. » L'aubergiste, qui était comme au garde à vous, n'attendait que ce signal pour passer à l'action. En deux temps trois mouvements, il parcourut tout le périmètre de la salle de son auberge afin d'enlever les torchons qui masquaient les cadres. Et comme si la scène n'était pas encore suffisamment étrange, ce fut le moment où retentit un premier coup de tonnerre. Sec et cassant. Pareil à un coup de fouet claqué sur la croupe d'une carne. Le carton parfumé disait la vérité. Il y avait des portraits et il y avait des paysages. Ce n'était pas à proprement parler des peintures, mais des dessins faits à l'encre. Parfois composés de grands coups de pinceau, parfois de traits d'une extrême finesse qui se côtoyaient, se recouvraient, se croisaient. Comme en procession, étrange chemin de croix, nous passâmes devant tous pour les voir de près. Certains, comme Goebbler et Maître Knopf, qui avaient des yeux de taupe, s'y écrasèrent presque le nez, d'autres, au contraire, se reculaient à tomber en arrière pour en prendre la pleine mesure. Il y eut les premiers cris de surprise et les premiers rires nerveux quand certains se reconnurent dans les portraits, ou en reconnurent d'autres. Landerer avait fait son choix. Comment ? Mystère. Il y avait Orschwihr, Hausshorn, le curé Piper, Goebbler, Dorscha, Wurtenhauer, Ruppel, Ulrich Jacob, le Bedeau, Schloss et moi. Pour les paysages, la place de l'église et son pourtour de maison basse, la Lingen, la ferme d'Orschwihr, les rochers des Tisental, le Baptisterbrück, avec en arrière-plan le bouquet de saules têtards, la clairière du Lichmal, la grande salle de l'auberge de Schloss. Ce qui était vraiment curieux, c'est qu'on reconnaissait les visages et les lieux, mais pour autant, on ne pouvait pas dire que les dessins étaient parfaitement ressemblants. C'était un peu comme s'ils mettaient en évidence des échos familiers, des impressions, des résonances qui venaient dans l'esprit pour y compléter le portrait qui était devant nous, juste suggéré. Une fois que tout le monde eut fait sa petite ronde, les choses sérieuses commencèrent. On tourna le dos au dessin comme s'il n'avait jamais existé. Il y eut un grand mouvement vers les tables chargées de nourriture. On aurait cru que la plupart n'avaient ni mangé ni bu depuis des lustres, des sauvages. En un rien de temps, tout disparut de ce qui avait été préparé. Mais Schloss avait dû recevoir des ordres pour qu'il y ait toujours des bouteilles et des assiettes pleines, car le buffet ne semblait pas se dégarnir. Les joues se colorèrent, les fronts se mirent à suer, les paroles devinrent plus fortes et les premiers jurons tapèrent les murs. Beaucoup, sans doute, avaient déjà oublié pourquoi ils étaient venus, et plus personne ne regardait les cadres. Seul comptait ce qu'ils pouvaient se mettre dans le ventre. Landerer, lui, avait disparu. C'est Diodème qui me le fit remarquer. Juste après son petit discours, il est remonté dans sa chambre. « Qu'est-ce que tu en dis ?»«
De quoi ?»«
De tout ça. » Diodème, de la main, désigna l'exposition au mur. « Je crois bien que j'ai haussé les épaules. »«
C'est drôle, ton portrait. Ça ne te ressemble pas trop, et pourtant, c'est tout à fait toi. Je ne sais pas trop comment le dire. Viens voir. »
Je ne voulais pas être désagréable avec Diodème, et je l'ai donc suivi. On s'est faufilé entre les corps des uns et des autres, entre leurs souffles, leurs odeurs, leurs sueurs, leurs haleines alourdies par le vin et la bière. Les voix s'échauffaient, les esprits aussi. Beaucoup parlaient fort. Orschfir avait ôté de son crâne son bonnet en taupe. Maître Knopf sifflotait. Le Zungfrost, qui d'ordinaire ne buvait que de l'eau, grisé par les trois verres qu'on lui avait refilés de force, commençait à danser. Trois hommes retenaient en riant Lula Karpak, un cheminot aux cheveux jaunes et au teint de rave qui, dès qu'il était ivre, voulait absolument casser la gueule à quelqu'un.
« Regarde bien, » me dit Diodème.
Nous étions parvenus tout près du dessin. Je fis ce qu'il me demandait, longuement. Au début, sans trop fixer mon attention sur les lignes que Landerer avait entremêlées, et puis peu à peu, sans que je comprenne pourquoi ni comment, j'entrais de plus en plus dans le dessin. La première fois où je l'avais vu, quelques minutes plus tôt, je n'avais rien remarqué. Il y avait mon nom dessous, et peut-être m'étais-je senti un peu gêné d'être représenté. Ce qui fait que j'avais rapidement détourné la tête et que j'étais passé bien vite au suivant. Mais là, en le revoyant, en m'arrêtant devant lui et en le considérant, c'est un peu comme s'il m'avait aspiré, comme s'il s'était animé. Et ce ne furent plus des traits que je vis, des courbes, des points, des petites taches, mais des pans entiers de ma vie. Le portrait que Landerer avait composé était pour ainsi dire vivant. Il était ma vie. Il me confrontait à moi-même, à mes douleurs, à mes vertiges, à mes peurs, à mes désirs. J'y voyais mon enfance éteinte, mes longs mois dans le camp. J'y voyais mon retour, j'y voyais Emilia muette, j'y voyais tout. Il était un miroir opaque qui me jetait au visage tout ce que j'avais été, tout ce que j'étais. C'est Diodème qui, une fois de plus, me fit revenir dans le réel.
Alors ?
C'est drôle, lui dis-je. Et si tu regardes bien, si tu regardes vraiment, c'est comme ça pour tous. Pas vraiment fidèle, mais très vrai. C'était peut-être sa manie des romans qui faisait que Diodème regardait toujours dans la doublure des mots et que son imagination courait 10 fois plus vite que lui. Mais ce jour-là, ce qu'il m'avait dit n'était pas idiot. Je refis lentement le tour de tous les dessins que Landerer avait accrochés au mur de l'auberge.
Les paysages, qui m'avaient paru quelconques, se mirent à s'animer, et les visages racontèrent les secrets et les tourments, les laideurs, les fautes, les troubles, les bassesses. Je n'avais touché ni au vin ni à la bière, et pourtant je chancelais. Ma tête tournait. Pour le portrait de Goebbeler, par exemple, il y avait une malice dans l'exécution qui faisait que si on le regardait un peu de gauche, on y voyait le visage d'un homme souriant, aux yeux lointains, aux traits paisibles, tandis que si on le prenait un peu de droite, les mêmes lignes fixaient les expressions de la bouche, du regard, du front dans un rictus fielleux, une sorte d'horrible grimace, hautaine et cruelle. Celui d'Orschwihr parlait de lâcheté, de compromission, de veulerie, de salissure, celui de Dorcha de violence, d'action sanglante, de gestes irréparables. Celui de Wurtenrau disait la petitesse, la bêtise, l'envie, la rage. Celui de Piper suggérait le renoncement, la honte, la faiblesse. Pour tous les visages, il en était de même. Les portraits qu'en avait fait Landerer agissaient comme des révélateurs merveilleux qui amenaient à la lumière les vérités profondes des êtres. On aurait cru une galerie d'écorchés. Et puis il y avait les paysages. Ça n'a l'air de rien pourtant un paysage. Ça ne dit rien. Au mieux, ça nous renvoie à nous, pas davantage. Mais là, croqués par Landerer, les paysages devenaient parlants. Ils racontaient leur histoire. Ils portaient les traces de ce qu'ils avaient connu. Ils témoignaient des scènes qui s'étaient déroulées là. Sur la place de l'église, au sol, une tache d'encre, placée à l'endroit même de l'exécution, évoquait tout le sang qui s'était écoulé du corps d'Aloïs Cator lorsqu'il avait été décapité. Et sur ce même dessin, lorsqu'on regardait les maisons qui bordaient la place, toutes avaient portes closes. Une seule porte était ouverte, très nettement, celle de la grange d'Otto Michenbaum. Je n'invente rien, je le jure. Par exemple, dans le dessin qui figurait le baptistère Brücke, si on inclinait un peu la tête pour le regarder en biais, on s'apercevait alors que les racines des saules esquissaient la forme de trois visages. De trois visages de jeunes filles. De même que celui qui représentait la clairière du Lichmal. On pouvait retrouver aussi la forme de ces visages dans les branches des chênes, pour peu qu'on fronce un peu les paupières. Et si je n'ai pas pu, sur le moment, découvrir, dans certains autres dessins de Landerer, ce qu'il fallait y voir, c'est tout simplement que les événements qu'il suggérait ne s'étaient pas encore déroulés. C'est le cas pour les rochers des Tizental, qui à cette époque étaient de bêtes rochers, ni beaux ni laids, sans histoire ni légende. Mais c'est précisément devant ce dessin-là que j'ai retrouvé Diodème. Il était planté devant, comme une borne dans un champ, pétrifié. Il a fallu que je dise trois fois son nom pour qu'il se détourne un peu et me regarde. « Qu'est-ce que tu vois dans celui-ci ? » lui demandai-je. « des choses, » répondit-il songeur. Il n'ajouta rien de plus. Plus tard, après sa mort, j'ai eu le temps de réfléchir, évidemment. J'ai repensé au dessin. On pourrait me dire que j'ai la tête qui chauffe et le cerveau défait. Que cette histoire de dessin, ça n'a ni queue ni tête. Qu'il faut avoir l'esprit et les sens bien dérangés pour voir dans de simples gribouillis tout ce que j'y ai vu. Et que c'est bien facile d'avancer tout cela alors qu'il n'y a aucune preuve. Qu'il n'y a plus de dessin. Qu'ils ont tous été détruits. Oui, justement. Ils ont tous été détruits. Et le soir même, en plus. Si ça, ce n'est pas une preuve, qu'est-ce que c'est, alors ? Ils ont été déchirés en mille morceaux, éparpillés, réduits en cendres parce que, à leur façon, ils disaient des choses qui n'auraient jamais dû être dites. Ils révélaient des vérités qu'on avait étouffées. Moi, j'avais mon compte. Je suis parti de l'auberge, où ça buvait de plus en plus et où ça braillait comme des bêtes, mais c'était encore des bêtes joyeuses, qui avaient le vin gai. Diodème, quant à lui, est resté jusqu'au bout. Et c'est par lui que j'ai su. Schloss est encore sorti des pichets et des bouteilles, pendant une heure environ, et puis subitement, fin des hostilités. Plus de munitions. Sans doute, la somme sur laquelle lui et Landerer s'étaient mis d'accord avait-elle été atteinte. Ce fut le début de l'aigreur. Des mots tout d'abord, quelques gestes ensuite, mais rien de bien méchant. Un peu de casse, mais là aussi rien de sérieux encore. Et puis le bougonnement a changé de nature, comme lorsqu'on enlève le veau de la mamelle. Au début il geint, et puis ensuite il en prend son parti et se cherche autour de lui un autre amusement, une petite raison d'être. C'est alors que tous se rappelèrent du pourquoi ils étaient là. Ils se tournèrent vers les dessins et les considérèrent de nouveau ou autrement, ou avec les yeux dessillés, comme on voudra. Et ils virent. Ils se virent, à vif. Ils virent ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient fait. Ils virent dans les dessins de Landerer tout ce que Diodème et moi y avions vu. Et bien sûr, ils ne le supportèrent pas. Qui l'aurait supporté? Un vrai saccage. Je n'ai pas bien compris qui a commencé. Et ça n'a d'ailleurs pas grande importance puisque tous s'y sont mis. Et que personne n'a tenté de retenir qui que ce soit. Le curé était saoul comme un cochon et dormait sous une table depuis longtemps en suçant un bout de sa soutane, comme un enfant son pouce. Les plus vieux t'avaient suivi de peu et étaient rentrés chez eux. Quant à Orgevir, il regardait le spectacle sans y prendre part, mais avec une pointe de satisfaction. Et lorsque le fils Kipoft a lancé son portrait dans le feu, il a eu l'air bien heureux, tu peux me croire. Et puis tout est allé très vite, tu sais. Pas le temps de dire ouf qu'il n'y avait plus rien au mur. Seul Schloss avait l'air un peu ennuyé. Quand Diodème m'a raconté cela, c'était le surlendemain, et la pluie n'avait pas cessé de tomber depuis le fameux soir, comme si le ciel avait besoin de faire une grande lessive, de laver le linge des hommes, puisqu'ils ne parvenaient pas à le faire eux-mêmes. Les murs de nos maisons semblaient pleurer, et dans les rues, des ruisseaux brunis par la terre et le fumier des étables ravinaient les pavés, emportant des menus cailloux, des brins de paille, des épluchures, des salissures. C'était d'ailleurs étrange cette pluie, cet écoulement continu qui venait d'un ciel qu'on n'apercevait même plus tant la barbe épaisse, sale et trempée des nuages le tenait constamment caché. On l'avait attendu depuis des semaines que le village cuisait sous la chaleur, et avec lui les corps, les nerfs, les muscles, les désirs, les forces, et puis il y eut l'orage, l'éclaboussure de l'orage qui répondit de façon gigantesque à l'éclaboussure des hommes, au déchaînement contenu dans l'auberge de Schloss, au massacre dérisoire des dessins, car à l'instant même où se jouait cette sorte de répétition mineure de leur Aenis, où on brûlait des effigies avant de plus tard tuer l'homme, le ciel, devenu trop lourd, se fendit en deux, d'est en ouest, sur toute sa largeur, et répandit, comme des boyaux et des tripailles, des trombes d'eau grise, aussi grasses et pesante que des rinsures. Schloss avait mis tout le monde à la porte, mère compris, et tout ce joli débarras clapota sous l'averse et les éclairs. Certains s'étalant de tout leur long, mimant la nage dans les flaques, hurlant comme des écoliers sans surveillance, lançant à la face des autres de pleines poignées de boue, comme si ça avait été des boules de neige. Je me plais à croire que Landerer, derrière sa fenêtre, contempla le spectacle. J'imagine son petit sourire. Le ciel lui rendait grâce, et tout ce qu'il voyait à ses pieds, ces créatures trempées, vomissant et se lançant des injures, entrechoquant leurs rires, leurs mots bredouillés et leurs jets de pisse, ne faisait que rendre ses portraits détruits un peu plus vrais encore. C'était en quelque sorte une manière de triomphe pour lui, le sacre du maître du jeu. Mais ici-bas, mieux vaut ne jamais avoir raison. C'est une chose qu'on vous fait ensuite toujours payer très cher.